Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, on est reparti pour une magnifique semaine, je vous le dis. Ça va être une semaine Coupe de France, pas de Coupe d'Europe, mais Coupe de France. On va se régaler, les quarts de finale de la Coupe de France à partir de mardi, mercredi, jeudi. On va se régaler là-dessus, mais aussi aujourd'hui pendant 2 heures, on va analyser la Ligue 1. Il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. Et déjà, la première chose de ce début de semaine, c'est qu'on retrouve Benoît Boutron. Il revient de vacances, il est bronzé et tout. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va Benoît?
Ah, ça va, super.
Il a dû faire beau, Porte-Saint-Cloud.
J'étais à Marbella avec Habib.
Ça se voit pas. Ça se voit pas. Il y en a un qui est sur la Côte d'Azur et est tranquille. Pas la Côte d'Azur. Il est à Marseille, c'est Eric Dimeco. Salut Eric.
Comment ça va, Jérôme? Salut Benoît, salut Dugas, salut les amis. Ça va, grande forme.
Eric,
je reprends du service.
Et comme donc, une cagole, tous les midis à Casa Dimeco, voilà, en train de manger sa pizza. Parce qu'il est là avec ses lunettes de soleil, apparemment.
À midi, on a mangé au soleil, c'est vrai, en effet. Et puis, Osiris repart sur les routes, donc le 21 mars.
Excellent.
Le 21 mars, tu vas avoir le temps avec la pizzeria aussi.
On sera à Marseille ou Maqueda, voilà.
Quelle vie,
venez nombreux. Le 21 mars.
C'est incroyable.
Ah, c'est dingue.
Success story. Bientôt 70 ans, le mec, il en fait plus qu'à 50 ans.
Mais Jérôme, sachez que pour rester jeune, il faut rester actif.
C'est vrai. T'as raison.
Il faut être multitâche.
Il y en a un qui est très actif. Voilà, c'est Christophe Dugarry. Salut Dugas.
Salut les copains. Multitâche, ça me convient. Ah ouais. C'est exactement ce qui me caractérise. Ouais. Par contre, excuse-moi. Vas-y, Dugas. Non, je voulais dire, Jérôme, excuse-moi, au brevet des collèges, t'as eu combien en géographie? Parce que Marseille, sur la Côte d'Azur, c'est quand même assez génial, quoi.
Je viens de me reprendre, je me suis repris.
Oui.
Eh oui.
Non, mais t'es repris ou...
Non, je me suis repris.
Géographie, t'es quand même très moyen, quand même.
Oh, ça va, c'est pas très loin, quand même. Ouais. Non.
On est en Provence, nous.
On est en Provence. Et après la Provence, c'est quoi? Après la Provence, c'est la Côte d'Azur.
On n'a pas mis Marseille en Gironde non plus. Ça va, oui.
On embrasse nos amis de la Côte d'Azur, mais nous aussi, c'est la Provence.
Ouais, c'est vrai.
Un grand Roten sans flamme ce soir. Roten se chauffe à 19h, 2 défaites d'affilée. Est-ce un vrai coup d'arrêt pour l'Olympique Lyonnais? Eh oui, défaite à Strasbourg.
Il est le coach.
La semaine d'avant. Et hier soir, défaite à Marseille, 3-2, dont on va longuement parler
amère.
D'ici quelques secondes avec vous au 32-16. Ouais, c'est un beau match.
Bah, c'est une défaite amère. Ouais.
J'espère qu'on va féliciter Habib pour le travail. Hein.
Ouais. Habib, notre guide, évidemment.
On va le faire.
À 18h45, allô Jérôme, un témoignage fort, celui de Jordan Verretou, joueur de Al Arabi à Doha au Qatar. Il nous parlera de la situation sur place avec tout ce qui se passe en ce moment, la guerre qui a été déclenchée par les États-Unis à Israël, en Iran, la riposte iranienne avec les bombardements qui ont lieu au Qatar et dans les pays du Golfe. On parlera de ça donc à 18h45. Un grand procès à 18h30, celui de la Ligue de football professionnelle. Je vous le dis d'avance, on a un membre de la Dream Team qui est fou furieux. Parce que la Ligue a validé le report de PSG Nantes entre les deux matchs de huitième de finale de Ligue des Champions entre le PSG et Chelsea. Eh bien, une personne autour de cette table que ça rend fou. Donc, on pourra en parler à 18h30. Ça va faire un grand procès. Et puis, à 19h30, Roten sélectionneur. C'est l'habitude du lundi avec un débat qu'on va vous proposer ce soir. Hugo Ekitike mérite-t-il d'être titulaire dans cette équipe de France au poste d'avant-centre? Il brille à Liverpool. Est-ce que lui doit être titulaire au poste de
plus que Thuram à l'Inter, ça c'est sûr.
On en débat donc à 19h30 et je vous annonce également.
Bon, débat, pour une fois dans ta rubrique.
Non, mais on annonce également une surprise.
Il y aura une surprise.
Il y aura une surprise.
Je sais que vous êtes friand de ça.
Un joueur qui n'a jamais été appelé. En tout cas, par Jérôme Roten, qui sera dans la liste ce soir.
Nouveau, c'est obligé.
Bien sûr.
Eh, mais il a déjà été appelé par Didier Deschamps.
C'est vrai, mais pas par toi pour l'instant.
Non.
Allez tout de suite, Eric est passé par toutes les émotions hier soir.
Qui touche le Vélodrome. J'en ai marre. La frappe de Paixão. Oh, la claquette de but. Le but.
Oh, phénoménal.
Ce que j'aime chez Igor, c'est que je veux le voir jouer avec le sourire, avec le plaisir.
La frappe d'Imbert. Oh, le but de Rémi Imbert pour l'OL.
Je vais mourir.
Aubameyang. L'égalisation marseillaise.
On sait que les duels olympiques sont toujours très engagés. Il fallait rester constant dans ce qu'on devait produire ce soir.
Donc les joueurs se sont mis au niveau. Les joueurs ont été extraordinaires de manière de mettre.
Et le Marseillais, le doublé pour Pierre-Emerick Aubameyang.
Après, comme d'hab, il faut savourer dans le vestiaire, mais tout de suite se calmer parce que on fait commencer.
Preuve qu'il a une grande faculté d'adapter.
Ça y est, c'est fini. L'acte fondateur, la première page du livre Habib Bey à Marseille est écrit.
Est-ce une victoire fondatrice pour l'OM?
La réactivité, bravo Antoine, notre réalisateur. C'était à 17h40, c'est déjà dans la pointe.
Fondatrice.
Scénario, un rebondissement dans le choc de Ligue 1 hier soir. Marseille a finalement battu Lyon 3-2 après avoir été mené deux fois. Résultat qui permet aux Marseillais de rester en course pour le podium. Deux points de retard seulement sur Lyon à 10 journées de la fin. Soulagement pour Habib Bey qui est allé chercher sa première victoire à la tête de l'OM. Soulagement, mais aussi remobilisation parce qu'il y a un match important qui arrive mercredi, le quart de finale de Coupe de France face à Toulouse. Florent Germain, notre correspondant à Marseille, est avec
nous. Salut les amis, salut à tous.
Flo, alors, est-ce qu'à l'OM, on considère que c'est une victoire fondatrice?
Non, pas à ce point-là. Il y avait beaucoup de joie, de sourire, c'est vrai, mais on peut dire que les Marseillais étaient heureux, mais lucides quand même après le match. La victoire, elle a été vécue, tu as employé le mot, Benoît, comme un soulagement plutôt, pas comme une victoire fondatrice. On a vu, c'est vrai, des scènes sur la pelouse ou dans le vestiaire qui traduisaient, je pense, une libération par rapport à la pression, voire même aux secousses qu'on a connues ces dernières semaines en interne. Mais on a le sentiment et on sait à Marseille que l'OM revient de très loin, que à 10 minutes de la fin Lyon était à 8 points et menait 2-1, donc c'est une victoire qui fait du bien, c'est indéniable, mais c'est beaucoup trop tôt, écoutez Habib Bey pour parler de déclic.
Oui, mais comme je le dis, c'est un éternel recommencement, et c'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'est qu'il faut profiter de ce moment-là, mais dans 3 jours il y en a un autre qui est tout aussi important dans les objectifs qui sont fixés par le club, donc on devra très très vite redescendre en émotion, travailler dès demain pour être l'équipe la plus performante possible mercredi. Pour moi, en fait, les dynamiques, elles s'entretiennent. On peut pas considérer que là, parce qu'on a ce scénario-là, d'un seul coup, on serait une équipe complètement différente. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Ça a été dur cette semaine-là de travail, mais ils ont pas rechigné à la tâche, ils ont travaillé.
Voilà, ils ont travaillé et surtout ils ont affiché, c'est ce qu'appréciait le staff, les joueurs, deux ou trois valeurs non négociables et sur lesquelles ils ont beaucoup insisté à Marbella, l'intensité, alors par séquence, hein, ça n'a pas été toujours facile, les Lyonnais aussi ont un peu haché le jeu lors de la première demi-heure, donc il y a eu quelques séquences d'intensité, il y a eu aussi de la solidarité et cette capacité à réagir parce que Marseille était mené deux fois au score et ça a beaucoup plu. Donc voilà, en gros pour résumer, il y a la sensation que le travail à payer, mais qui a encore beaucoup de boulot avec une étape majeure, là aussi décisive dès mercredi, ce quart de finale de Coupe de France où là aussi Marseille n'aura pas le droit à l'erreur.
Tiens, Flo, reste avec nous, la une de Rotten sans flamme ce soir sur RMC. Est-ce une victoire fondatrice pour l'OM d'Habib Bey, Jérôme Rotten, alors?
Non, moi je suis d'accord avec Flo, c'est pas une victoire fondatrice, elle est essentielle en effet dans les objectifs d'Olympique de Marseille sur ce qu'ils peuvent atteindre encore comme objectif sur les 10 derniers matchs, c'est-à-dire une place sur le podium, et on va pas on voit très bien que le deuxième il est un peu trop loin, c'est Lens, donc c'est Lyon qui est visé et va aller
si
mieux.
Tu perdais hier, c'était cuit.
Peut-être pas cuit, mais c'était très compliqué, ouais, même un match nul. Voilà. Donc aujourd'hui, en effet, tu t'es rapproché de Lyon à 2 points. Donc ça veut dire que t'es totalement dans les clous pour les sauter au bout d'un moment. Après, c'est plus un soulagement en effet, et tu l'as vu sur les célébrations de but. Alors d'autant plus à Marseille, mais ça depuis le début de saison, le stade, si tu veux, il y a un tel engouement, une telle ferveur d'un moment que ça excite tellement tout le monde, le banc de touche, les joueurs, que quand tu passes de 2-1 où tu es au fond du seau là, à 2-1 pour Lyon, il reste 10 minutes à jouer, tu te dis mais merde, là encore une fois on va s'incliner, c'est foutu, et puis il y a la bénédiction, du moins les dieux du stade étaient avec l'OM là pour gagner ce match-là. Et ben tant mieux qu'ils en profitent. Mais en termes de soulagement, c'est une certitude quand tu passes les dernières semaines qu'ils ont passées. Il y a du soulagement. Après, pour dire que c'est fondateur, ce match-là. Moi, je vais pas aller jusqu'à là parce que on a revu les mêmes défauts de l'Olympique de Marseille. Pour moi, sur la rencontre. Alors peut-être que certains vont se braquer. Je pense que comme Fonseca, la meilleure équipe a perdu. Quand tu vois le nombre de situations des Lyonnais, comment l'OM quand il passe à travers ce fameux pressing. au moins, ce qu'il y a de bien, c'est que cette équipe, elle était vers l'avant. Elle s'est libérée, elle a fait des courses, elle a pris des risques. Au moins, ils ont couru ensemble. Alors, des fois, c'était maladroit, mais Habib Bey vient d'arriver. Donc, peut-être qu'en l'espace d'une semaine ou de 10 jours, il n'a pas encore le temps de corriger tactiquement tout ce qu'il veut mettre en place. Et ça, c'est aussi à mettre à son crédit. C'est-à-dire, en très peu de temps, déjà, il a changé les attitudes de certains joueurs. Donc ça, c'est la première chose, et il faut s'inscrire dans la durée. C'est toujours plus compliqué, quand c'est pas un match événement, de le remettre en place, cet état d'esprit-là. Parce que là, contre Lyon, contre Paris, ces matchs-là...
La motivation est automatique.
On a été joueur pour les préparer, c'est très facile. T'as pas besoin d'un entraîneur hein, pour savoir qu'il faut courir plus que d'habitude. Il faut pas baisser la tête si jamais ça se passe mal. C'est ce qu'ils ont fait, et ça au mérite des joueurs. Tant mieux. Après. Oui, si tu veux atteindre tes objectifs, être dépasser Lyon, parce que pour moi ils sont moins bons que Lyon aujourd'hui. Si tu veux dépasser Lyon, bah il va falloir s'améliorer sur plein de choses. Mais avec le temps, est-ce que Bey va avoir le temps sur les 10 derniers matchs de mettre ça en place plus la Coupe de France? Je sais pas, parce que tu sais qu'à Marseille, dans tous les cas, tous les matchs aujourd'hui de l'Olympique de Marseille, c'est pour ça que je le dis depuis le début de l'année, mais encore, ça va se vérifier sur les prochains matchs. Ils seront très souvent en difficulté.
Oui, mais celui-là, il va falloir. Plus important que les autres.
Oui, mais ça veut rien dire. Mais ça veut rien dire parce que regarde. Mais le match de mercredi, joue Toulouse à Marseille, c'est un éternel recommencement.
Oui, c'est vrai.
C'est une autre compétition. Mais après, il y a le match de Toulouse à domicile en Coupe de France. Ils vont aller à Toulouse. Mais au Stadium, ils ont pas le droit à l'erreur, en fait. Et tu sais très bien qu'au Stadium, à Toulouse, par moment, ils vont être en difficulté comme ils l'ont été contre Brest. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut y aller mollo. Mmh. En effet, c'était essentiel de prendre 3 points. Et bravo pour eux dans l'attitude. Et tout, ils sont allés se le chercher. Tant mieux que, encore une fois, il est dieu du stade, était pour l'Olympique de Marseille sur ce match-là. Et puis derrière, bah, on verra comment ça réagit, comment ça récupère et quelle envie ils vont mettre maintenant contre Toulouse. Est-ce qu'ils vont être dans le même état d'esprit d'aller vers l'avant? On a tellement été déçus sur la première partie de saison que, franchement, moi, je mets le pied sur le frein.
Est-ce que c'est une victoire fondatrice pour l'OM, Dugas?
Écoute, déjà je voudrais féliciter les deux équipes. Déjà c'était un match passionnant, c'était un match hyper intéressant, c'était un football total. Ça a joué, ça a pas trop calculé. Moi je trouve que cette équipe de Lyon elle est vraiment incroyable. Voilà, avec des jeunes joueurs à fort potentiel et pas que potentiel quoi. Ils montrent du concret là, ce Norton là au milieu de terrain, je trouve.
Ouais, très bon.
Je le trouve vraiment incroyable. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Lyon. Après Marseille, ils sont allés la chercher, la victoire quand même. C'est pas rien ce qu'ils ont réalisé. Moi, j'essayais de me mettre à leur place à 8 minutes de la fin. Le trouillomètre, il devait être à 0.
Ah ouais.
aller chercher cette victoire, c'est quand même fort, quoi. C'est quand même fort. Bravo à eux, sincèrement. Bravo à Habib aussi pour ses choix. Ses choix ont été payants. Il a fait rentrer des mecs qui ont été décisifs. Que ce soit Pac Xiao qui est buteur et passeur.
Ouais, mais par la force des choses, hein, Dugas, parce que Timber s'est blessé. Hein.
Mais il n'est pas obligé de mettre Pac Xiao à la place. Il peut aussi mettre un milieu de terrain. Il y avait Nadi, par exemple, qui avait le profil.
Et il choisit de mettre un milieu de terrain.
Nadi, tu vas pas remplacer Nadi par un joueur offensif quand tu vois les. Bon, vas-y, Dugas.
Après, il fait rentrer l'anglais aussi, qui est décisif pour le coup. Donc, voilà, moi, j'essaie toujours, souvent, on va dire, de me mettre à la place des joueurs. Et je l'ai connu en plus ce contexte pendant 2 ans, parce que moi, j'ai connu une année exceptionnelle à Marseille et une année horrible.
Deux,
donc,
ouais.
je sais ce que c'est que quand c'est des matchs aussi décisifs, aussi importants, aussi électriques, aussi déterminants. Je trouve que voilà, qu'ils ont montré beaucoup de courage. Après, bien sûr, on s'attendait pas à ce que tout soit parfait. Bien évidemment, il y a encore beaucoup, ils offrent encore beaucoup de
situations à Lyon. Hein.
Et d'occasions et de situations à leur adversaire qui ils s'en sortent bien, Marseille. Bien évidemment que ça s'est joué sur un fil. Mais Marseille, après, moi, ce que je trouve qui est intéressant quand tu fais ce genre de match, qu'est-ce que t'en fais de cette victoire?
Bah, voilà. C'est ça.
Qu'est-ce que tu
retires?
C'est ça, le débat. Eh ben oui, mais c'est ça qui compte. C'est pour ça que c'est les matchs d'après, en définitive. Bien évidemment que ce match, il faut le dire et le redire. Ce qu'ils ont fait, c'est super. Parce qu'en plus, ils ont battu une équipe qui est meilleure qu'eux en ce moment. Exactement. Et qui, sur le match, était meilleure qu'eux. Je suis d'accord avec Jérôme. Mais qu'est-ce que t'en fais de ce match? Et ça, les joueurs, il faut qu'ils en prennent conscience. Il faut déjà garder, au minimum, garder la même intensité, la même envie de courir, la même volonté.
et après améliorer encore techniquement, encore améliorer les choses. Autrement, tu vas te faire taper à Toulouse, parce que même si tu bats Toulouse,
ouais, c'est vrai.
Tu vas te faire taper au stadium si tu montres autant de lacunes que t'as montré face à
Brest.
Lyon, autant de lacunes techniques, autant de lacunes dans la profondeur que tu concèdes, autant de situations, tu vas te faire taper et ça remettra tout à zéro, parce que Marseille, de par ses résultats précédents, n'a malheureusement pour eux n'a plus le droit à l'erreur. Ils vont être obligés de jouer et de gagner. Ah,
c'est que des finales,
ouais.
Bah ouais, exactement.
Après, vous dites que Lyon était meilleur que l'OM. C'est vrai que sur le match, on a vu Marseille qui a souffert. Moi, j'ai eu le sentiment des tribunes que ça, si ça se finissait sur un match nul, il n'y avait pas scandale.
Moi, après,
c'est un peu l'histoire du foot.
Non, moi, je suis d'accord.
Non, mais je peux terminer. C'est un peu l'histoire du foot que des fois ça bascule sur un côté. Mais ce que je veux dire, parce que vous en parlerez peut-être à 19h sur Lyon, mais c'est pas de la faute de Marseille si l'alignement il est catastrophique sur l'égalisation d'Aubameyang. Lyon se manque totalement.
Ah oui, c'est sûr.
La fin de match, il craque aussi parce que Lyon a ses torts aussi.
Ah
c'est
oui,
pas, c'est pas non plus Lyon qui a roulé
mais
sur
mais Lyon, ils ont des défauts aussi. Attention, Lyon, ils ont des défauts aussi. Ils sont sur deux défaites aussi. On en parlera tout à l'heure. C'est que voilà, ils ont peut-être un excès d'envie de jouer.
Mais parce que ce que tu as analysé du gars et des tribunes, je l'ai senti.
Mais pour moi, il n'y a pas photo sur le match hier. Pour moi, sur le match hier, sincèrement, il n'y a pas photo.
J'ajoute quelque chose, c'est que quand Lyon a mené, à un moment donné, tu as parlé de trouillomètre du gars, et c'est vrai que le Vélodrome était presque à un moment donné en train de se retourner et on sentait les jambes fébriles et que Marseille n'y était plus. Lyon, il pouvait aussi appuyer, essayer de faire mal et finalement ils sont pas
sur le but de Tolisso. Regarde, au deuxième but qui est refusé pour une rotule là, un bout de rotule à 2-0, ils sont non mais attention, je te dis pas c'est le règlement, c'est comme ça, injuste ou pas.
Il y a Hendrick, deux passes décisives,
exactement, et
l'occasion d'Humbert là qui frappe à côté.
Humbert qui frappe à côté, mais à deux
Humbert et aussi Tesman qui aussi.
Et puis Flo, sur quand alors le deuxième but est refusé de Tolisso, mais derrière t'imagines ce qui se passe derrière, t'égalises deux minutes après avec Pacheco qui rentre et qui met une frappe où le gardien qui a été très bon il fait une cagade.
Ah non, ouais. Oh, elle est belle la frappe quand même.
Il fait une cagade, le gardien, mais vous rigolez ou quoi?
Non, arrête, bien sûr qu'il fait une cagade.
Non mais arrête,
Benoît, s'il te plaît.
Non mais arrête, il fait une cagade.
Une cagade,
bon d'accord, il fait une cagade.
Il peut mieux faire, c'est vrai
que
quand même.
Il peut mieux faire, mais c'est pas une cagade. C'est, enfin, pardon.
Mais si, mais t'appelles ça comment? Il est sur la mer.
T'es pas décisif.
Elle est même pas dans la lucarne.
Bon, Eric, vas-y, toi, tu vas peut-être être plus juste.
Regarde, Benoît, ils sont
à deux
doigts de dire que c'est un hold-up.
Non,
j'ai un très mauvais souvenir de ce débat. Je peux partir à tout moment.
Mais je suis très heureux. Je suis très heureux de ne pas avoir les mêmes matchs que vous, les garçons. Sincèrement, ça me rassure.
Ouais, moi aussi.
Vous avez vu l'OM qui méritait de gagner là.
C'est pas son
ami. Mais nous fait pas dire ce qu'on a pas dit.
J'ai dit,
ça peut valoir un match nul. Après, c'est l'histoire du foot. Des fois, ça bascule d'un côté.
Vous avez dit qu'ils avaient roulé sur Lyon. Bon, vas-y. Vas-y, Eric.
Non, mais vous entendre, c'est Lyon qui a roulé sur l'OM. C'est ça qui est
mais pas loin.
Allez, Eric.
Mais pas loin. Mais moi, j'ai pas
loin. Allez, Eric, tu m'engueules moi. Il saute de ce chamaillé. Mais non, mais vas-y, c'est posé.
Vas-y, Eric, c'est toi. Mais toi, tu vas nous mettre d'accord.
Non, pour répondre à la question, match fondateur, je crois qu'il n'y a personne à Marseille qui dit ça aujourd'hui. Pour une simple et bonne raison, c'est que on l'avait dit après le match contre Lens, on en a pris 3 à Bruges, on l'avait dit après le match en Coupe de France contre Rennes, on en a pris 5 contre le PSG, donc il n'y a plus personne qui se hasarde à s'enflammer après un match comme ça. Par contre, d'être heureux quand tu bats Lyon dans ce genre de match, dans ce genre de scénario-là, ben j'espère qu'ils sont heureux et j'espère que ils ont bien profité de cette soirée. Ensuite, moi, je suis d'accord avec Jérôme sur on a vu les qualités et les défauts qu'on voyait avant à l'OM, une défense qui concède des occasions, notamment avec ses percées des adversaires dans l'axe là, c'est fascinant. Ouais. C'est un truc que je ne comprends pas de pas arriver à corriger ça. Alors je pense que c'est vraiment un problème de culture tactique, voire d'intelligence tactique, parce que je vois pas autrement.
C'est physiquement aussi,
et peut-être et d'un autre côté, on voit devant une équipe qui peut mettre des buts tout le temps, puisque ça a longtemps été la meilleure attaque du championnat, avec des mecs, un Greenwood ou un Aubameyang qui sort toujours de la boîte et qui va te mettre des buts. Moi, là où je suis d'accord avec Duga sur qu'est-ce que tu fais de ce match-là. Et c'est ça qui est intéressant finalement, ah oui. C'est la suite après ce match-là. Déjà, tu t'es évité le feu, donc déjà ça a pas de prix, hein, parce que à 8 points de Lyon, je peux te dire que c'est fini.
Oui, parce hein, que si tu perdais, il y avait pas de suite.
Voilà, donc là c'était fini, c'était la crise. Peut-être que mercredi le stade aurait été hostile et ça aurait été compliqué pour se qualifier. Donc voilà, tu évites ça et tu reviens dans la course pour. Déjà ça c'est bien, mais ensuite qu'est-ce que tu fais de cette victoire? Et c'est là où ça va être intéressant. Et moi, je suis impatient de voir la composition d'équipe que va mettre, enfin en tout cas le dispositif, parce qu'il y a des blessés, il y a des suspendus d'après ce que j'ai vu, les Timber, les Højbjerg, je crois qu'ils
sont suspendus. Højbjerg suspendu voilà, et suspendu, Timber c'est des boîtes et l'épaule,
Timber blessé, voilà. Donc
et Query, donc
mais ce serait intéressant de voir la même prise de risque, puisque quand tu mets une défense à 4 avec deux défenseurs centraux, avec les défaillances qu'on a, c'est une prise de risque, mais moi je suis prêt à l'assumer cette prise de risque. Donc j'espère qu'on va revoir une défense à 4
et puis t'as un effectif Eric pour le faire.
Oui non. Mais voilà, non, mais j'espère qu'on va être enfin dans la continuité. Et moi, surtout, Habib nous en avait parlé, un jeu beaucoup plus direct vers l'avant. Et pour moi, ce jeu qui va plus vite vers l'avant oblige notamment les milieux de terrain. Tu sais, ce jeu de possession qui fait que on faisait passer la balle à les défenseurs. Le milieu de terrain qui vient entre les deux défenseurs centraux prendre le ballon, faire une passe à 4 mètres. Ça t'enlève tout impact possible sur l'adversaire. Là, on a joué. Alors. C'est bien de le noter que au bout de 2 minutes de jeu, vieux réflexe de 1 an et demi de Zerbi, on a fait 3 passes à travers pour prendre un contre, pour prendre un but.
C'est vrai.
But ouvert de 100 personnes de Tolisso quand même. Hein. Donc et ça les a obligés à alloger le jeu. Et le fait d'alloger le jeu, ben ça oblige les milieux terrain qui sont pas des grands constructeurs, hein, c'est pas leur qualité première, à monter et du coup à mettre ce rythme qu'on a vu, cet impact qu'on a vu avec beaucoup de défauts peut-être, mais en tout cas c'était un match vivant. Moi je me suis régalé. Je peux te dire que cette année, il y a beaucoup de matchs. Si je bossais pas avec vous, les gars, j'aurais été à la télé, je serais passé sur autre chose. Et bien hier soir, malgré le fait que à 2-1, Lyon revient à 2-1, j'ai regardé jusqu'au bout parce que je me suis dit, il va se passer de trucs. Peut-être du côté de Lyon, hein, ça se serait passé. Oui. Mais je me suis dit, il va se passer de trucs. Et hier soir, le match, je l'ai pas vu passer. Et ça, déjà, c'est une grande victoire, tu vois.
Voilà. Est-ce donc, que t'as vu
Habib, j'espère qu'Habib va continuer avec un jeu un peu plus direct, parce que je pense que ça
correspond. Est-ce que t'as vu la boulette du gardien de Lyon ou pas?
Ouais, tu l'as vu ou pas la boulette? Ou pour toi il y a pas boulette?
Non mais boulette.
La boulette. Ah non mais moi je comprends pas qu'il va la chercher avec la main droite. C'est pas
possible. D'accord. Donc il a fait une cagade. On est d'accord.
Okay. Non, c'est pas
une. Donc une passe au gardien. Une chandelle qui aurait dû arrêter.
Non, mais la boulette c'est quand le ballon vient dans la main et qu'il la laisse passer.
Ah bah là elle est quand même sur son bras.
Non mais c'est une arconada. Vous avez raison. C'est une boulette incroyable.
Non mais il
est grave. D'ailleurs c'est un CSC. La LFP l'a accordé à Griffe.
Exactement.
Je plaisante.
Il pousse pas sur ses jambes. Il va pas la chercher avec le bon bras, mais la frappe est belle quand même, les gars. Déconnez pas.
Non, apparemment non.
Sur ses jambes, il va pas la chercher avec le bon bras.
Non.
Mais à part ça, il a tout bien fait.
Mais pas le bon. Allez, Greg, supporter de l'OM au 32.
Ouais, Greg.
Salut l'équipe.
Salut Greg. Bon. Salut Greg. Alors, c'est quoi ton analyse sur cet Olympico?
Bon, ben déjà, on a vu un match avec beaucoup d'envie, beaucoup de contact. Vu la physionomie du match, je pense que le nul aurait été logique. Voilà, je pense. Parce que si Lyon met le deuxième but, peut-être le match est encore différent. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que pour une fois, ça a tourné en notre faveur dans les arrêts de jeu. Et c'était important. Et je pense que tout le monde a été soulagé hier soir, que ce soit les supporters, le staff, les joueurs. Parce que quand tu commences un match important, où tu pars une semaine à Marbella et tu prends un but au bout de 2 minutes, tu sais que c'est un match important, que tu joues contre un concurrent direct. Voilà, ça a été un peu compliqué. Mais ils ont pas lâché, ils ont joué. Ça a eu beaucoup de contacts, beaucoup de duels. C'était de l'envie. Et c'était plaisant à voir des fois où tu vois des matchs un peu sans envie, sans solution. Là, ils ont mis l'impact et c'était vraiment bien.
Là où ça ronronne. Là, ça ronronnait pas, quoi.
Ouais, ça joue, ça va au duel. Et tu sais, ça va au contact. Greg. Et puis, c'était... Oui.
Tu sais la bonne nouvelle de la soirée quand même, parce que si tu regardes ces derniers matchs, je vais vite reprendre le calendrier parce que vous allez vous souvenir.
Ben, cette équipe,
mais je te parle d'avant. Ah. Cette équipe, tu regarderas, elle était tellement en méforme spirituelle, je sais pas comment on pourrait appeler ça là,
et un manque de confiance.
Ouais. Pardon. Ouais. Cette équipe était tellement manque de confiance que regarde les matchs. Liverpool, tu prends un but d'entrée, tu t'effondres. Ouais. Bruges, tu prends un but d'entrée, tu t'effondres. t'effondres. PSG, tu prends un but d'entrée, tu t'effondres. Brest, tu prends un but d'entrée, tu t'effondres. Ah ouais. Hier soir, quand je les vois marquer d'entrée comme ça, moi, je suis inquiet. Et la bonne nouvelle de la soirée, quand même, qu'on peut mettre au crédit de l'équipe, c'est que derrière, ils se sont pas effondrés.
Et finalement,
ouais. ils se sortent de avec une première mi-temps où tu te dis tiens, il aurait peut-être pu, ils auraient peut-être pu revenir au score.
Oh bah ils auraient pu en prendre un deuxième aussi.
Ils auraient pu prendre un deuxième, mais ils auraient pu revenir au score. Greenwood a des occasions, il y a eu des possibilités.
Il y a plus en première mi-temps, il y a des grosses situations pour Lyon.
Oui, mais tu peux mettre à leur crédit le fait qu'ils se sont pas effondrés quand même.
Ça c'est vrai, ça c'est vrai.
Voilà. Donc et ça c'est peut-être un progrès par rapport à ce qui se passait avant où tu avais l'impression que quand tu prenais un but il savait qu'il pouvait plus gagner.
On l'a dit, Eric. Après, Eric, est-ce que tu attends à chaque victoire au Stade Vélodrome que Habib Bey embrasse la pelouse ou pas?
Ouais, il en a pas fait tant que ça hier. Si, t'as trouvé toi?
Arrête, il embrasse. Il a juste fait 3 tours de terrain, il a embrassé la pelouse.
Sur le troisième.
Mais après, les gars, si vous voulez que les mecs restent de marbre,
on a dit qu'à Marseille, il fallait savoir gérer ses émotions aussi.
Mais tu vois, Jérôme, des fois, je pense que vous devriez un peu plus venir au Vélodrome, si possible, parce que toi, par exemple, t'as dit qu'après les buts, mais viens avec plaisir. Bah moi, tu mets une perruque ou quoi que ce soit. Mais tu dis qu'il y a eu de l'enflammade. Je te promets, hier au Vélodrome.
Ah, c'est bon ça.
Le Vélodrome était très très calme. Voire, ça avait rien à voir avec l'ambiance habituelle d'un OM Lyon. Alors après, à la fin, il y a eu le 3-2, donc l'engouement, il y a eu le tour d'honneur. Bon, ça c'est normal, la victoire, parce que c'était le soulagement. Mais honnêtement, les supporters, ils en ont surtout, gros sur le cœur, gros sur la patate. Ouais. Ils n'ont pas chanté comme d'habitude. Le cœur était lourd, il n'y avait pas une énorme ambiance.
Jérôme, on ne va pas reprocher quand même à un entraîneur qui vient d'arriver, qui aurait pu voir sa saison en championnat finir dès hier soir, avec un scénario qui, à l'arrivée, te fait croire que tu vas le perdre dans ce match-là. On ne va pas reprocher quand même à un entraîneur d'être content d'avoir gagné ce match-là.
Non, mais ce que je veux dire,
ce qui m'énervait ces dernières semaines, je vais te le dire, moi, c'est hier soir, ils n'en ont pas fait des tonnes, c'était tout simplement heureux. Allez. Mais moi, ce qui m'a énervé ces dernières semaines, c'est quand tu fais le tour d'honneur, quand tu en as pris 3 contre Liverpool,
Ce qu'on a reproché aussi à De Zerbi, ça a été sur les victoires à la rage, de célébrer ça comme si tu avais gagné un titre.
Et autre chose, quand même, les discours d'avant-match, Habib, et même sur le terrain, il est plus dans l'apaisement quand même, dans son discours, dans sa manière de diriger son équipe.
Et même son choix de changer de capitaine, c'est moins
excité que De Zerbi, qui avait ses grandes qualités aussi. Et d'ailleurs, il n'a jamais dénigré
De Zerbi. Il a incarné avec les déclats de De Zerbi.
On va pas quand même, les gars, faire des
procès à un entraîneur qui est content.
Allez, mercredi, Marseille-Toulouse.
Moi, j'ai rien dit.
En tout cas, Flo nous a confirmé que c'était un
Pas du tout.
Merci Flo.
Ciao les amis.
Voilà. Merci Flo pour ton regard et tes infos. Et dans un instant, un grand procès dans Rotten sans flamme, le procès de la Ligue de football professionnel qui a validé le report du match PSG Nantes. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h32 sur RMC, la deuxième demi-heure de Rotten sans flamme. C'est maintenant avec Eric Dimeco, avec Christophe Dugarry, avec Benoît Boutron. On est là jusqu'à 20h comme tous les soirs à 18h45. On va passer un coup de téléphone à Jordan Veretout avec tous les soucis au Moyen-Orient. Il nous donnera de ses nouvelles et comment il appréhende la situation avec sa famille. Donc restez bien à l'écoute, mais avant, c'est le procès.
Allez, on y va.
RMC, Rotten sans flamme.
Je tenais toutefois à dire que la FIFA, je suis un peu ému. J'espère au cours de ce troisième mandat, je ne sais pas ce qui se passe.
Le procès de Rotten sans flamme.
Michel Platini.
Il était ému, on rigole pas de Michel.
C'est vrai.
Alors la requête du PSG a été acceptée. Le match entre Paris et Nantes, prévu entre les huitièmes de finale aller et retour de Ligue des Champions contre Chelsea, a été reporté. La Ligue a validé le report après avoir obtenu l'accord du FC Nantes. La demande venait des dirigeants parisiens. Ça devrait se jouer la semaine du 20 avril. Colère des supporters nantais, parce que le club joue son avenir en Ligue 1. Nantes avant-dernier avec un point de retard sur le barragiste Auxerre, et Nantes qui va devoir enchaîner 3 matchs en 8 jours au mois d'avril. Nantes-Brest, PSG-Nantes et Rennes-Nantes. Report possible car le PSG et Nantes ne sont plus en lice en Coupe de France. Ce soir, au lieu d'ouvrir le procès des dirigeants nantais, de Valdemar Quitta notamment, on a choisi d'ouvrir le procès de la Ligue de football professionnel qui a donc validé le report de ce PSG-Nantes. Et on a deux procureurs. Jérôme Roten, bonsoir.
Bonsoir.
Et Eric Dimeco, bonsoir.
Bonsoir.
L'avocat de la Ligue, c'est maître Christophe Dugarry, bonsoir.
Ah. Bonsoir.
Et c'est Charlie qui va rendre son verdict au 32-16.
Salut Charlie.
Salut
Charlie.
Salut, bonsoir à tous.
Sois le bienvenu, Charlie.
Salut, Charlie.
Vas-y, Jérôme, toi, ça t'a rendu fou que la Ligue accepte cette demande.
Non, mais alors déjà, à ceux qui vont trouver des circonstances atténuantes et qui vont me dire, mais il y a déjà eu des cas dans le passé et tout ça, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Ça, j'en ai rien à faire. Moi, j'analyse le football d'aujourd'hui, le championnat d'aujourd'hui. Si tu veux que le championnat de Ligue 1...
Ça a peut-être à voir, mais tu veux pas l'analyser. Pas.
Non, mais si tu veux que le championnat de Ligue 1 soit respecté, à sa juste valeur. Dans ces cas-là, fais preuve de neutralité avec tous les clubs qu'ils jouent la Coupe d'Europe, qu'ils jouent la Coupe de France, qu'ils jouent à l'époque la Coupe de la Ligue, mais il y en a pas, et qu'ils jouent le maintien. Peu importe, tu dois respecter, et t'as un calendrier qui doit être respecté. D'autant plus quand c'est un huitième de finale de Ligue des Champions. Parce que dans ces cas-là, si l'excuse, la première, c'est oui, mais c'est notre vitrine. À l'Europe, c'est le Paris Saint-Germain. Il faut tout faire pour que le PSG aille loin. Mais le PSG, ils ont des moyens aujourd'hui pour pouvoir enchaîner des matchs. Ils peuvent, avec 800 millions de budget, 800 millions d'euros de budget, ils peuvent anticiper et avoir une deuxième équipe, voire une troisième équipe, comme peut le faire tous les grands d'Europe qui veulent jouer sur tous les tableaux. C'est le cas du Paris Saint-Germain. L'année dernière, en effet, il y a une saison où ils étaient champions d'Europe. C'est comme ça. T'as fait la Coupe du Monde des clubs. Écoute, aujourd'hui, on se rend compte qu'en termes d'organisme, c'est compliqué d'enchaîner comme ça les compétitions sans avoir du repos et sans avoir une vraie préparation physique estivale. Ça, c'est la réalité. Mais aujourd'hui, pourquoi tu vas faire payer la Ligue 1.
Et toi, t'en veux pas au PSG, hein, t'en veux à la Ligue.
Non, mais j'en veux à la Ligue. La Ligue, comment ils peuvent nous expliquer aujourd'hui qu'il y aura pas d'impact sur les prochains résultats et ce qui va se passer? Déjà parce que Nantes, et je comprends les supporters nantais, mais là, dans ces cas-là, il faut s'en prendre à Valdemar Quitta qui a donné son accord. Parce que ça, c'est inadmissible. Alors après, lui, il va peut-être nous expliquer Quitta que il va dans le sens du Paris Saint-Germain. Oui, mais tu vas contre ton club. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, pour parler de la Ligue, dire comment tu peux aujourd'hui nous dire le match de Nantes, ça va faciliter, il arrive entre les deux les deux matchs de Chelsea en une semaine, comme ça on le remettra en fin de saison, ils joueront des matchs
le 20 avril.
Le 20 avril, voilà. Dans ces cas-là, c'est quoi le match de Rennes derrière, parce que tu me dis qu'il y a un déplacement à Rennes derrière, c'est
ouais,
ça.
Ouais.
Donc le déplacement à Rennes, tu sais quoi, t'as qu'à le décaler aussi, parce que si le PSG est encore qualifié, autant qu'il se repose et puis le mettre début mai, parce qu'il y a bien une période où tu pourras jouer. Et puis le prochain match aussi, s'ils sont encore qualifiés en quart de finale, vous les repoussez jusqu'au bout. Et comme ça, tu donnes priorité à la Ligue des Champions et tous les autres matchs et le calendrier, on s'en fout. Parce que là, je finis là-dessus sur mon argument, c'est que pour le Paris Saint-Germain, mets-toi à la place de Lens. Lens va jouer donc ce week-end-là quand le PSG va pas jouer.
Ouais.
Imagine il y a toujours 4 points
d'écart
entre les deux après que Lens ait joué. 4 points, c'est possible. Mais le match du PSG le 20 avril contre Nantes, mais il sera même pas important pour le PSG parce que soit ils prendront 7 points. Bon là, c'est rien. Mais même 4 points, c'est un matelas qui est déjà suffisant. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire à la période du 20 avril le Paris Saint-Germain? Et à juste titre, ils ont raison de le faire. Mais tu vas mettre l'équipe bis. Tu vas faire souffler tes cadres.
Ça va avantager Nantes.
Mais ça va avantager forcément Nantes, parce que Nantes, pour la course au maintien, c'est la même chose. Si Nantes, en regardant devant, alors pas les barragistes Auxerre, mais Nice, par exemple, qui a 6 points aujourd'hui ou à 7 points, donc c'est déjà important. Mais imagine Nice perd les matchs. C'est possible parce que Nice, ils mettent pas un pied devant l'autre. D'accord? Donc Nice perd les matchs. Et que Nantes arrive au Parc des Princes en se disant, on a un match en retard, mais on a 4 points de retard. Imagine, on fait l'exploit à Paris. Donc nous, on va y aller avec les dents très longues, ce qu'ils n'auraient pas forcément eu là quand ils viennent, parce que l'accumulation des matchs fait que le déplacement à Nantes, de Nantes au Parc des Princes, en temps normal,
toi,
ils se disent
bon. Toi, c'est la perturbation chronologique
mais,
que t'aimes pas.
Quoi. Mais c'est perturbant. Alors, et puis en plus, non mais en plus, on l'a vécu. Ce que je veux dire, moi, j'aurais aimé l'année où je suis allé en finale la Ligue des Champions avec l'AS Monaco, que à partir des huitièmes de finale, on nous organise le calendrier. Mais c'est magnifique. Mais qui c'est le président de la Ligue aujourd'hui? S'il avait, si, ben voilà, ben écoutez, je pense qu'il veut pas de bien au championnat.
Eric, qu'est-ce que tu veux rajouter?
Non, moi je suis la Ligue. Bon, la Ligue, moi j'ai même pas envie d'attaquer puisque je suis pas étonné. On sait quand même que Vincent Labrune est soumis à Nasser Al-Khelaïfi, donc on n'est pas étonné. Donc à la limite, non, moi ce qui m'étonne dans cette histoire-là, et après je laisse la parole à Duga parce que Jérôme a dit beaucoup de choses, c'est que Nantes se tire valide, une balle dans le slip, se tire une balle dans le slip parce que ils auraient pu du coup comme tu dis, normalement les grandes équipes européennes sont justement armées normalement pour jouer tous les trois jours. De partout en Europe, ça va jouer. Voilà. Et
Peter Crouch l'a dit en Angleterre d'ailleurs. Il a dit en Angleterre, ça n'arrivera jamais.
Mais non, voilà. Et Nantes aurait pu bénéficier du calendrier. C'est comme ça. C'est le calendrier qui est fait comme ça. Tu racontes des équipes qui jouent ou qui jouent quelque chose ou qui jouent plus rien. C'est la vie. Ils sont en mauvaise situation. Et surtout, ça va les handicaper une deuxième fois parce qu'ils vont enchaîner, alors qu'ils n'ont pas l'effectif pour ça, eux, plus tard, des matchs tous les trois jours.
Exactement.
Plus tard, pendant le Money Time. Pendant le Money Time, pardon. Et donc ça m'étonne que même le président Kita se soit soumis comme ça, je suis assez étonné.
Dugard. Fallait mettre Eric avec moi, parce que moi, je suis d'accord avec Eric. Pourquoi s'attaquer à la Ligue? La Ligue, il faut que respecter
qui prennent la décision. Non, parce
que c'est deux clubs.
Oui,
bien sûr, mais si tu veux t'en prendre à quelqu'un, Jérôme.
Oui, c'est plus à Kita.
Au président de club, au président Kita, au président du PSG et à tous les autres présidents qui ont donné leur accord pour que la priorité soit de donner la priorité au club qui joue la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe et autres. Ça a été dit, le président Rivière a dit, il y a un accord qui fait que la priorité ira à la Ligue des Champions quand des équipes demanderont à ce que le match soit décalé. Moi, je trouve qu'il est là, le scandale. Mais c'est pas la Ligue. La Ligue, Nantes est d'accord? Le PSG est d'accord, donc il valide. Il manquerait plus qu'en plus.
Les clubs sont d'accord. Il est quand même l'organisateur
qui protège le mieux les championnats? Excusez-moi, c'est les acteurs du championnat quand même. C'est quand même les présidents qui sont censés mieux protéger leur club, leur investissement, l'argent qu'ils mettent au quotidien et tout ce qui va avec. Mais les présidents de club, de par leur décision en début de saison, de dire priorité à la Coupe d'Europe, ils se mettent. C'est pour ça que moi je comprends pas pourquoi on attaque que la Ligue ce soir. On doit attaquer les présidents de Ligue 1 qui ont accepté ce deal.
Parce que si
je trouve, comme Jérôme, inadmissible. Inadmissible ce deal.
Si
le calendrier, c'est le calendrier.
Du,
point à la Ligue,
du gars, si t'as un monsieur à la tête de. Un monsieur qui a envie de défendre le football français, à la tête de la Ligue, il est aussi responsable de ça. Il peut aussi dire à Nasser El-Khelaïfi et dire à Kita. Attends, franchement, aller contre Kita, dire à Kita, non, mais vous allez jouer ce match-là.
Qu'est-ce que tu vas écrire?
Oui.
Charlie, qui remporte ce procès? Est-ce que c'est Eric et Jérôme ou est-ce que c'est Dugas?
Tous les arguments s'entendent et ils sont très bons et je suis un petit peu d'accord avec tout le monde au final. Mais la LFP fait quoi?
Faut te décider.
Un calendrier en carton comme ça. Donc, je sais pas, moi j'irai plus du côté de Dugas pour cette fois-ci. C'est la Ligue qui a validé, terminé. Les clubs, ils sont d'accord. Donc, effectivement, l'instance qui valide, c'est la Ligue, point barre. Donc, c'est à la Ligue de revoir à chaque fois puisque. Depuis X années, on est habitué à avoir le PSG au minimum en huitième de finale. Donc les calendriers, il y a moyen de les aménager à l'avance en espérant qu'à chaque fois le PSG...
Non mais t'imagines quand même qu'aujourd'hui, on a une Ligue 1 à 18, avant c'était 20 clubs et il y avait la Coupe de la Ligue en plus.
Ah, c'est fou.
Et aujourd'hui, il n'y a plus la Coupe de la Ligue, il n'y a plus la Coupe de France qui te fout en semaine en plus et c'est déjà réglé au mois de mars.
Pourquoi les présidents ont accepté ça, Jérôme, alors?
Ça c'est sûr.
Merci Charlie.
Le pire, Jérôme, c'est que imagine les quatre clubs français demandent à reporter leur match.
Ah mais j'aurais aimé moi.
Ça veut dire que les autres sont engagés en Coupe de France encore et c'est la semaine des demi-finales le mercredi 22. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent pas pour l'instant.
Mais qui est engagé?
Lens, Lyon est engagé. Ouais, Lille est engagé aussi. Donc
En Coupe de France?
Ouais, non, pas Lille.
Mais non, Lille, non. Ouais. Donc, ben, moi, j'encourage tous ces clubs-là. Demandez le report.
Mais 4 matchs ah ben oui. sur une.
Et Strasbourg.
Sur un
Strasbourg contre Reims. Voilà. Strasbourg qui joue encore en Coupe de France.
Non, mais même. Demain, c'est pas correct.
Encore une victoire. Allez, merci.
C'est pas correct.
Bon. Allez, dans un instant.
Oh non, j'ai gagné, là.
On file au Qatar, au Moyen-Orient, retrouver Jordan Veretout qui va nous donner de ses nouvelles après tout ce qui se passe depuis ce week-end. Et la guerre enclenchée par Israël et par les États-Unis envers l'Iran, la riposte iranienne sur le Qatar, notamment. On fait le point avec Jordan Veretout dans un instant. À tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h47 sur RMC. On est là dans les 10 dernières minutes de la première heure de Roten sans flamme. Mais après 19h, on est de retour avec Eric Dimeco, avec Christophe Dugarry et avec Benoît Boutron. Là, dans un instant, on va recevoir par téléphone, bien sûr, Jordan Veretout qui va nous donner de ses nouvelles avec tout ce qui se passe et cette guerre contre l'Iran. On est là jusqu'à 20h et après 19h, Benoît.
Roten se chauffe, deux défaites d'affilée. Est-ce que c'est un vrai coup d'arrêt pour l'Olympique Lyonnais, supporter de l'OL? On vous attend au 32-16. Mais tout de suite donc, allô Jérôme.
RMC, Roten sans flamme.
Le centre de Klaus, ça traîne. Allez, Veretout, faut finir. Oui, Jordan Veretout qui va trouver la lucarne de Gauthier Gallant et l'OM mène 1-0 ici à Rennes.
Allô Jérôme.
La troisième journée de guerre au Moyen-Orient, vous avez certainement suivi ça sur RMC, sur BFM TV. Samedi, l'attaque coordonnée des armées israéliennes et américaines sur l'Iran. Au moins 555 morts en Iran depuis le début de la guerre. Un chiffre qui a été donné aujourd'hui. La riposte iranienne sur Israël et sur les pays du Golfe, le Qatar et les Émirats Arabes Unis notamment. On précise que 170 000 Français vivent dans les pays du Golfe. Et parmi eux, Jordan Veretout, ex-joueur de l'OM et de Lyon, qui évolue dans le championnat qatari. Il est en direct dans Roten sans flamme, Jérôme.
Salut Jordan.
Salut les gars.
Bienvenue dans Roten sans flamme, Jordan. Bon, déjà, on prend tes nouvelles parce qu'avec ce qui se passe là, on s'inquiète un peu avec tous nos Français qui sont au Moyen-Orient. Comment tu vas?
Ouais, très bien, très bien. Bon, un peu, c'est une sensation un peu bizarre, mais la famille va bien, les enfants aussi. Donc voilà, on est en sécurité, c'est le principal. Mais c'est vrai que c'est une situation un peu bizarre.
Raconte-nous comment t'as traversé le week-end, Jordan, parce que le Qatar n'était pas préparé à subir comme ça des attaques et des bombardements. Comment ça s'est passé pour toi et pour ta famille alors?
Bah, tout d'abord, réveil matinal comme tous les autres et on a entendu péter dehors. Donc premier réflexe, on a déjà vécu ça il y a 4-5 mois avec ouais. Avec les missiles sur ou les bombes sur le Hamas. Et premier réflexe, c'est d'allumer la télé. On a tout de suite vu que les Américains et les Israéliens ont attaqué l'Iran. On savait qu'il y a une base militaire américaine sur le territoire qatari. Donc voilà, c'est beaucoup de. On passe par plein de moments. On ne sait pas trop ce qui se passe, ce qui va se passer. Donc on essaye de rassurer tout le monde, surtout les enfants qui sont en pleurs. Et puis ça a pas arrêté toute la journée, donc on commence à s'inquiéter, pas beaucoup dormi la nuit suivante, et puis après ça s'est calmé, donc voilà, on espère que ça reste comme ça, mais c'est sûr que ouais, c'est un peu flippant. Ouais.
Et Jordan, vous avez reçu des consignes du club, des gens qui vous gèrent là-bas?
Ouais, bah de l'ambassade, du gouvernement, de rester le plus possible chez soi, de rester en sécurité, de pas rester à côté des fenêtres par exemple, donc voilà, plein de petites consignes comme ça. Maintenant à Doha, la situation elle est plutôt calme, les gens vivent, les gens sortent, donc c'est rassurant. Aujourd'hui on a reçu un message comme quand on reprenait l'entraînement collectif, donc voilà, je pense que ça rassure un peu tout le monde.
Ah, c'était ma prochaine question. En effet, si vous aviez des nouvelles déjà à l'entraînement, tu viens de répondre. Mais est-ce que la compétition va encore s'arrêter un petit bout de temps ou vous avez déjà un repère de ce côté-là?
Non, pour le moment, on a une réunion hier avec la Ligue. Voilà, comme quoi la priorité numéro un, c'est surtout la sécurité de tout le monde. Donc ils prendront aucun risque. Maintenant. Aujourd'hui, le match de ce week-end est encore prévu, en fonction de l'actualité, bien sûr. Mmh. Mais je crois que c'est d'actualité de jouer ce week-end. Et c'est pour ça que voilà, aujourd'hui, hier, ils ont reçu un mail comme quoi on pouvait reprendre les entraînements collectifs. Je pense que voilà, si on peut se réunir et pouvoir faire un entraînement, c'est que ils ont confiance à 100%. Autrement, ils prendraient pas le risque.
T'appréhendes pas un peu l'entraînement de soir, par exemple? J'imagine que ça doit pas être facile.
Bah, on appréhendait surtout le match de ce week-end parce que avec tous ces bombardements, le match était maintenu. On a eu quand même rendez-vous à l'hôtel à 17h. Mmh. Donc on se posait beaucoup de questions. Moi j'ai mon ami Pablo Sarabia qui est dans mon équipe aussi. On s'appelait beaucoup pour savoir est-ce qu'on va jouer, est-ce qu'on va pas jouer, est-ce que c'est pas mieux de rester avec la famille à la maison. Et puis ensuite on a quand même été au rendez-vous et une heure après ils ont décidé d'annuler le match. Donc je pense que c'était bien pour tout le monde parce que on n'aurait pas pu jouer comme ça. Et ensuite, non, j'appréhende pas parce que s'ils nous disent de venir de pouvoir s'entraîner collectivement, c'est que voilà, ils ont confiance à 100%. Mmh, comme nous a dit la Ligue hier, on prendra zéro risque. Donc voilà, je pense que le système de défense qatari est puissante et voilà, on va leur faire confiance sur ça.
Jordan Veretout, joueur de Al Arabi, aujourd'hui en direct dans Rotten sans flamme ce soir sur RMC. Est-ce que tu as été en contact, toi et ta famille, avec les autorités françaises, Jordan? Et est-ce que, compte tenu de la situation, tu envisages de, je sais pas, rapatrier ta femme et tes enfants en France?
Non, c'est pas d'actualité pour le moment. On attend de voir la situation. De toute façon, l'aéroport est fermé, on peut rien faire. On est ici. Maintenant, sincèrement, la situation à Doha est tranquille et plus calme. Après, en fonction de ce qui va se passer dans les jours à venir, c'est sûr que voilà, s'il y a besoin, on envisagera un retour de la famille. Mais pour l'instant, tout a l'air calme. Donc voilà, on va croiser les doigts que ça reste comme ça et que ça se finisse le plus rapidement possible.
T'as pas de contact avec les autorités françaises? On n'a pas pris contact
non,
avec
pas du tout, non. Non, pas du tout. Comme tout le monde, j'ai appelé l'ambassade pour savoir ce qu'il fallait un peu faire, s'inscrire et puis suivre les consignes et puis voilà, faire attention.
Et entre vous, entre coéquipiers, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous soutenez? Parce qu'il y a pas mal de joueurs qu'on connaît bien dans ton équipe, hein. Carl Toko Ekambi, ah bah oui. Isaac Liadji, il y a pas mal de francophones.
Ouais, ouais, bah on se parle souvent avec Isaac, avec Toko, avec Pablo, même avec les autres équipes, comme je parle souvent avec Benjamin Bourigeaud, ouais. ou Youssouf Sabalu que j'ai eu hier. Donc voilà, on essaye de communiquer et puis on essaye de se rassurer tous ensemble.
Est-ce que ça vous a pas empêché de sortir? Tu disais que c'était assez calme. Alors est-ce que en famille vous êtes sorti un petit peu ou vous restez vraiment confiné chez vous?
Il y a des familles qui sortent. Moi, on est resté plus à la maison. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a des familles qui peuvent sortir, se promener un petit peu. Maintenant, faut faire attention aussi. Faut pas faire tout et n'importe quoi. Mais voilà, moi comme là, dans 10 minutes, je pars à l'entraînement, je prends ma voiture, j'ai 30 minutes de route, donc voilà, je pense que je veux croiser beaucoup de voitures sur la route, des gens qui se promènent et la vie continue à Doha aussi.
Jordan, merci beaucoup.
Jordan,
pour
merci.
Ouais. D'avoir
merci
répondu
à vous.
À nos questions.
Passez une bonne soirée.
Non, bah surtout toi ouais. Et un gros bisou à ta famille, bien sûr, et à tous les joueurs francophones qui jouent là-bas au Qatar, même au Moyen-Orient. Dans tous les cas, on a vraiment une grande pensée pour vous et en espérant que ça s'améliore très vite.
C'est gentil, merci beaucoup. Merci.
Salut Jordan, à bientôt.
Et je vous suis encore, hein, je vous suis encore.
Ah, merci.
T'as plutôt intérêt, voilà.
T'es
le bienvenu quand tu veux.
Si tu as un débat qui t'intéresse, t'appelles.
Avec grand plaisir, avec grand plaisir.
Merci Jordan.
Merci Jordan. Salut, bye.
Bisous, ciao.
18h56 sur RMC, un grand merci à Jordan Veretout pour sa disponibilité dans un instant. On parle de l'Olympique Lyonnais avec Christophe Dugarry, Eric Dimeco, Jérôme Bretten. Justement, est-ce que c'est un vrai coup d'arrêt pour
l'Olympique Lyonnais?
C'est deux défaites d'affilée, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Rotten sans flamme.